Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp, paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.
Les délibérations communautaires ne doivent pas interrompre les activités apostoliques. Un règlement est établi. Les réunions ont lieu le soir. Les compagnons y décident du point à examiner par chacun, sans cesser le travail ordinaire, au cours de la journée suivante. Une fois la discussion achevée sur tel ou tel point, on prendra les décisions à l'unanimité. Très vite, un aspect du problème paraît clair. Plutôt que de briser leur union, voulue sûrement par Dieu, les compagnons décident de fortifier leur petite société et d'en resserrer les liens dans un corps unique, chacun prenant en charge et intelligence de chacun. Mais faut-il alors ajouter, au vœu de pauvreté et de chasteté, celui de l'obéissance à l'un d'entre eux? Ce point provoque un réel blocage. Comment obéir à la fois au pape et à un supérieur? En outre, la perspective du vœu d'obéissance pourrait écarter des candidats susceptibles d'adopter la manière de vivre du groupe, mais peu enclins à se soumettre à un supérieur. Par contre, des compagnons estiment que le vœu d'obéissance pourrait souder la cohésion du groupe, en assurer du même coup la stabilité. Le pour et le contre se partagent les esprits. Finalement, la décision est prise après Pâques. Il vaut mieux pour nous, il est plus nécessaire, de promettre obéissance à l'un d'entre nous. Le 15 avril 1539, les compagnons prennent l'engagement solennel de faire le vœu d'obéissance si le pape les y autorise. Cet engagement, scellé au cours d'une célébration eucharistique présidée par Pierre Favre et non par Ignace, revient formellement à la volonté de transformer la compagnie de Jésus en ordre religieux. De fait, au cours des deux derniers mois de leur délibération, les compagnons tracent les grandes lignes d'un véritable institut religieux. En plus des vœux habituels de pauvreté, chasteté et obéissance, quiconque voudra entrer dans la compagnie prononcera le vœu d'obéissance à la personne du pape, s'offrant ainsi pour aller dans n'importe quelle province ou région, chez les fidèles ou les infidèles. En outre, il devra enseigner le catéchisme aux enfants. La compagnie aura un supérieur général élu à vie. Celui-ci pourra admettre des novices et aussi renvoyer les inaptes. Le ton de ces dernières délibérations n'est plus celui d'un groupe qui règle en quelques lignes statutaires le fonctionnement d'une amicale. La grande discussion de 1539 est l'acte fondateur de la Compagnie de Jésus. Cependant, il n'a aucune force de loi sans la reconnaissance officielle du Saint-Siège. Dès le mois de mai, les compagnons chargent Ignace de rédiger, à partir des procès-verbaux de leur délibération, la première formule de l'Institut, sorte de charte de la nouvelle compagnie, l'équivalent de la règle des anciens ordres religieux. La formule n'est pas l'abandon du fervent compagnonnage des années parisiennes ou vénitienne, elle a pour objectif de former un corps pour l'esprit, de souder l'union en vue du service. Ignace exécute son ouvrage en un temps record. Le cardinal Gaspare Contarini présente les cinq chapitres de la formule à Paul III dès le début du mois de juillet. De son côté, le pape n'a pas tardé à user des offres de service des compagnons. La première mission qu'il leur confie est la réforme d'un couvent de bénédictines à Sienne. Deux hommes sont affectés à cette tâche délicate entre toutes. Ils partent avant la fin des grandes délibérations de juin. le vin du même mois, Favre et Lainès sont envoyés à Parme et Plaisance. En juillet, Bobadilla part pour Naples, Caudure pour Velletri. Plus jamais, les compagnons ne se retrouveront ensemble en un même lieu. Cette communauté est réunie pour se disperser. Elle est envoyée avant même d'être approuvée par le pape. L'approbation au demeurant ne s'obtiendra pas sans peine. Paul III soumet la formule à l'examen de Dominicains qui la retournent avec préavis favorable. Au début septembre, le pape donne son accord oral et demande au cardinal Guinucci de rédiger les documents nécessaires. Simple question administrative ? Pas du tout. Guinucci est choqué par les aspects novateurs du texte de Ignace. Voilà un ordre religieux qui exclut la prière du cœur et le chant de l'office divin. Voilà une règle qui interdit aux supérieurs d'imposer sous peine de péché des démarches ascétiques à ses subordonnés. N'est-ce pas une concession au vent de la réforme ? Quant au vœu spécial d'obéissance au pape, qui aurait pu briser sa résistance, le cardinal le juge parfaitement superflu. Tous les fidèles, et a fortiori les religieux, ne sont-ils pas tenus d'obéir à Pierre ? Bref, Guinucci ne veut pas entendre parler d'une reconnaissance officielle de cette petite compagnie. Gêné, Paul III confie l'affaire à un autre cardinal, Bartolomeo Guiduccioni, en qui il a toute confiance. Il ne pouvait choisir plus mal. Guiduccioni ne voit pas seulement des difficultés dans un tel ou tel chapitre, il est entièrement opposé à la fondation de nouveaux ordres religieux. Même les ordres existants devraient se réduire aux quatre grandes familles des bénédictins, cisterciens, franciscains et dominicains. Une fois de plus, Ignace est au tournant. Jérusalem a échoué. Son projet de compagnie de Jésus est mort-né. Mais un cardinal, ce n'est pas le bon Dieu. Loyola, l'obstiné, force l'obstacle. Il ordonne de célébrer 3000 messes pour faire entendre sa cause au ciel. Et sur terre, il envoie des lettres à toutes les personnes susceptibles d'influencer la décision de Paul III. Manœuvre réussie. Guiduccioni se radoucit et propose une solution de compromis. D'accord pour le nouvel institut, mais le nombre des membres admis à la profession religieuse ne dépassera pas 60. Cette clause sera abolie en 1544. Le pape se range à cette proposition. Le 25 septembre 1540, Paul III signe la bulle Regimini Militantis Ecclesiae qui fonde officiellement la Compagnie de Jésus. Ce jour-là, elle ne compte à Rome que trois jésuites, Ignace, Caudure et Salmerone.
Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.